Je vais faire une petite annonce. Ma sœur, qui fait partie de l'église de Béthune, là, elle nous dit qu'il y a un concert de louanges samedi 14 et dimanche 15. On le mettra, on l'accrochera là-bas. Louanges jeunes, samedi, c'est ça? D'accord. Eh. Dieu est bon, vous savez quoi? Il y a des années en arrière, on priait pour elle, pour qu'elle se convertisse, elle donne son cœur à Dieu. Aujourd'hui, c'est elle qui me dit, tu viens au concert de louange? C'est bon, c'est bon. Vous allez bien, j'espère? Amen. C'est un petit amen, quand même. Hein.
Amen.
Je ne sais pas si vous avez vécu ce dimanche dernier le même culte que moi, mais j'en suis sorti ici, mais béni. Vraiment béni. La louange était superbe. Le message de Mathieu était excellent. Vous avez essayé? Vous avez essayé de ce qu'il nous a enseigné? Parce que c'est un message d'enseignement sur le silence. Vous avez essayé? C'est compliqué de se faire taire, hein, quand même. Qu'est-ce que c'est galère? Se taire. T'as toujours des pensées. Ah, mais il faut pas que j'oublie ici. C'est vraiment une misère. Hein. Mais il faut se faire taire. Il faut se faire violence. Alors, moi, aujourd'hui, je veux... Ma sœur, ben alors, me permet, c'est ma petite sœur. Je vais vous présenter un message que... Si tu peux mettre le titre, s'il te plaît. Qui s'appelle « La paix de Dieu ». C'est quoi et comment l'avoir ? C'est vrai, on parle souvent de paix de Dieu, mais c'est quoi ? C'est quoi la paix de Dieu ? Et comment on l'obtient ? Est-ce que ça nous tombe comme ça sur le bec ? Alors, vous savez, j'aime bien regarder un petit peu les définitions, donc j'ai regardé Larousse, hein, sur Internet, je regarde. Définition de la paix, état de paix, état d'un pays, d'une nation qui ne sont pas en guerre. État d'un groupe, parce qu'il y a plusieurs définitions, hein, j'ai recherché, hein, état d'un groupe de personnes qui ne sont pas en querelle ou en conflit. Un peu plus loin. État de tranquillité, de repos chez quelqu'un qui jouit du calme intérieur, tranquillité d'âme. Ça m'intéresse. Mais c'est quand même incroyable que quand vous cherchez paix, bam, d'entrée de jeu, état d'un pays, de nations qui ne sont pas en guerre. Bizarre quand même le raisonnement un peu. La paix peut être l'opposé d'une guerre, vous l'avez bien compris. Cette paix qu'on veut tellement, quand y a des conflits, est-ce qu'elle est réellement durable? Est-ce que cette paix qui arrive au moment où il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de conflits, est-ce qu'elle amène l'homme à véritablement avoir changé son état intérieur? Il y a eu beaucoup de guerres, il y a eu aussi beaucoup de paix après les guerres. Mais bon, vous savez, la paix dans l'abondance, dans la prospérité, c'est possible. Mais est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est durable? Avec un peu d'âge, avec un peu d'expérience personnelle, de vie, on s'aperçoit très vite que c'est pas vrai. C'est pas durable. C'est pas vrai. Vous savez, il existe dans l'être humain tel qu'il est, il y a un tel désir du plus, de posséder plus, d'avoir plus, d'aller même chercher ce qui ne lui appartient même pas. C'est pour ça qu'il y a eu tant de guerres, parce que l'homme veut plus, plus d'acquisition, plus de pouvoir. Ça, c'est ça. Et vous ne pouvez pas me contrarier. Vous ne pouvez pas non plus me contredire, parce que l'histoire de l'homme, elle me démontre bien que c'est la vérité. Pourquoi il y a eu tant de guerres? Pourquoi il y a eu tant de morts? Pourquoi il y a eu des guerres fratricides, des guerres de religion? Pourquoi il y a eu des guerres entre nations? L'homme veut toujours plus. Soit il veut des biens, soit il veut imposer son pouvoir à l'autre. Ça, c'est l'homme. Pourtant, la Bible nous dit tout à fait autre chose. Dans Jean 14, verset 27, Jésus nous parle comme ça, juste avant de partir, rejoindre le Père. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne se laisse pas effrayer. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Comme si c'était, ouais, c'est sa paix, c'est lui qui l'a créée. Qu'est-ce que ça signifie cette paix? Elle vient de où? D'où vient-elle? Où était-elle à chercher? Et surtout, mais quelle action sa paix a sur moi? Quelle est l'action? Qu'est-ce que ça fait de recevoir sa paix? On voit dans la Bible plusieurs fois où on parle de paix, où on voit vraiment qu'on parle de Jésus. C'est Jésus qui vient, qui va donner la paix. Dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5, « En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Il est le prince de la paix. Quand on parle de prince, c'est qu'on est une royauté, c'est qu'on détient le pouvoir, c'est nous qui dirige. Il est le prince de la paix. La paix, elle est sous ses ordres. La paix vient de lui. C'est lui qui a autorité sur la paix. Éphésiens, chapitre 2, versets 16 à 17, nous dit « Il a créé, il a voulu les réconcilier, l'un et l'autre, avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. » Quand il parle à vous qui étiez loin, il parle aux païens, et à vous qui étiez près, on parle des juifs. Mais c'est lui qui est venu annoncer la paix. Ah ouais, pourtant il y avait eu des guerres, il y avait eu des temps de calme, il y avait eu des paix, mais ce n'était pas la paix. Jésus est venu pour nous annoncer la paix. C'est lui qui vient parler de la paix. Il est la paix. Dans 2 Thessaloniciens 3, 16, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Encore une fois, le Seigneur de la paix. Jésus est venu nous apporter la paix. C'est lui qui est venu nous apporter la paix. Rien d'autre. Cette paix qui nous apporte, qui nous donne, elle est synonyme de tranquillité, de confiance, de repos. Jésus nous donne cette paix en nous réconciliant avec le Père. C'est cette paix qui fait que, grâce à cette paix, on est réconcilié avec le Père. Et vous savez comment il a fait? Comment il a fait pour nous apporter la paix? En mourant sur la croix. C'est son sacrifice parfait qui nous a donné la paix. C'est en sa mort sur la croix qu'on a la paix. Et cette paix, vous savez quoi? Aussi fortement que son sacrifice est réel et il est vrai, cette paix, elle est durable. Elle est durable. Elle n'est pas ébranlable. Bien au contraire, elle est forte comme un rocher, cette paix. Elle nous est apportée, elle nous est donnée. Une espérance éternelle. Un bonheur qui ne varie pas. Romains, chapitre 5, verset 1. Ainsi donc, déclarés juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire du Seigneur Jésus-Christ. Ah ouais? On a la paix avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans Jésus, il n'y a pas de paix. On ne peut pas être en paix sans Jésus. S'il n'y a pas Jésus entre nous, entre Dieu et le Père, entre le Père et nous, il n'y a pas de paix. C'est une fausse paix, c'est la paix du monde. Mais ce n'est pas la réelle paix que lui nous donne. Rien à voir avec la paix du monde, qui est une paix éphémère, qui est très peu sûre. Car il suffit de regarder les actualités. On crie paix, 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 et puis ben, après il y a l'épée. Hein? Je suis désolé, il faut regarder. Il suffit, regardez Israël qui nous tient tous à cœur, la Palestine et Israël. Combien de fois ils ont crié la paix, oui, un temps de calme, une trêve. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les gens, ils peuvent s'appuyer sur leur santé, ils peuvent s'appuyer sur leur argent ou un tas d'autres choses. n'est rien du tout. Vous savez quoi ? C'est pas parce que tu as une bonne position sociale, parce que tu as ci, parce que tu as là, que ça va te donner la paix. Tu vas t'asseoir, tu vas t'appuyer sur tes choses, mais tout peut être ébranlé en très peu de temps. Tout ça, ça ne dure pas. L'être humain, on veut toujours plus. Il n'est jamais satisfait. Tout autour de nous, on peut voir des gens qui recherchent désespérément la paix du cœur, en essayant de se tranquilliser par un tas de choses. Ça peut être n'importe quoi. Même, vous savez quoi, il y a des moments où on entend parler même des chrétiens qui nous parlent. Parce que même les gens, ils pensent qu'ils sont en paix, parce qu'ils possèdent, ils sont là, ouais, je suis bien, j'ai un beau métier, je gagne bien de l'argent, j'ai une belle femme, des gosses, j'ai une voiture, je suis en paix, je suis tranquille. Et même, je le disais, chez les chrétiens, c'est pareil. On entend certains chrétiens qui disent, ben moi, dans mes décisions, je suis en paix dans ma décision. Ouais, je fais ça, ouais, je suis tranquille, je suis en paix, je suis sur la terre, je suis dans les chemins de Dieu. Je vais vous donner un exemple, tout bête. Se croire en paix, vous savez quoi ? Ça ne veut pas dire que vous êtes dans les chemins de Dieu. Ce n'est pas parce que tu te crois en paix, parce que tu dis que tu es en paix, que tu es dans les chemins de Dieu. On prend un exemple tout simple. Jonas, chapitre 1, versets 2 à 3. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Pour dormir profondément, je pense qu'il faut croire qu'on est en paix. N'est-ce pas ? S'il y a une tempête, quelle que soit, tout le monde là-haut, ils sont en train de mouiller leur culotte, comme on dit. Et puis, Jonas qui descend en bas du bateau, il dort tranquille. Pourquoi ? Parce qu'il croit qu'il est en paix. Il est tranquillisé, mais Dieu ne va pas me trouver, là. Pourtant, l'histoire de Jonas nous montre bien quoi ? Qu'il était complètement à côté de la Pâque. Et pourtant, Jonas connaissait Dieu. C'était quand même un prophète. Non ? Mais il s'est planté. Être en paix, croire que tu es en paix, ça ne veut pas dire que tu es dans les chemins de Dieu. Bien au contraire. Bien au contraire. Pour dormir, ouais, être en paix, c'est un état d'être. C'est être en harmonie avec soi-même, mais avec les autres et avec Dieu. C'est avoir du succès dans tout ce qu'on entreprend. Et vous savez pourquoi ? Parce que rien ne nous affecte quand on est en paix. Il n'y a rien qui t'affecte. Tu es dans le chemin de Dieu. Dieu te met ta main sur toi. Il n'y a rien qui t'affecte. Tu ne t'inquiètes pas. Ça, c'est être en paix. C'est avoir cette manifestation de Dieu en nous. La paix qui nous est donnée, elle règne en nous parce que en nous, il y a la justice. Quand tu es en paix, c'est qu'il y a une justice en toi. Quand tu es en paix, c'est qu'il y a le pardon en toi. Quand tu es en paix, c'est aussi que tu as de l'humilité. C'est aussi que tu es capable de reconnaître tes imperfections. C'est une atmosphère. La paix, c'est une atmosphère qui règne dans ta vie, mais aussi dans ta famille. C'est ça, la paix. Vous savez, le proverbe 17, verset 1, nous dit quoi ? Mieux vaut un morceau de pain sec avec la tranquillité qu'une maison pleine de viande avec des disputes. Ça veut dire ce que ça veut dire. T'as beau avoir tout, tout. Si la paix règne pas dans ta maison, ça va pas bien. Ça va pas bien. Et vous savez, je le prends pour moi aussi. Hein. Croyez-moi. Hein. Je le prends aussi pour moi. Hein. T'as beau avoir tous les moyens que tu veux, financiers, matériels, s'il n'y a pas la paix dans ta maison, il y a un manque. Un gros manque. La paix dans une vie, c'est un trésor. Être en paix, c'est vivre sans angoisse, sans inquiétude. C'est un état de grâce. La paix, en vérité, c'est une véritable bénédiction. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir la paix. cette joie qui est là, d'être heureux, de savoir qu'il est là à chaque moment de ta vie. Vous savez, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ils devaient être en paix avant la tentation. Être auprès de Dieu, lui parler, faire un bout de chemin avec lui, discuter, sentir sa présence, pas avoir grand-chose à faire au travail. Ah, si ce n'est que faire peut-être le jardin, couper les herbes et tout. Profiter de sa femme, mutuellement. Se promener main dans la main, pas de soucis. Ah ouais. Et c'était bon. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Genèse 1, verset 31. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait. Et il constate. Moi j'ai dit c'était bon, mais regardez comment Dieu dit. Si Dieu il le dit. Il constata que c'était très bon. Très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Ah ouais. Dieu, il dit que c'était très bon. Donc, si Dieu dit que c'était très bon, ça ne pouvait que être excellent. Ce que Dieu a fait, c'est parfait. Vous savez qui est-ce qui le rend imparfait ? C'est nous-mêmes. Il a tout fait de façon à ce que nous soyons en paix, heureux. Mais c'est l'apparition du péché qui a fait que nous avons été coupés de la paix, cette paix, de cette communion avec Dieu. Mais grâce, par le sacrifice de Jésus, Dieu a restauré cela. Par Jésus-Christ, mort sur la croix, c'est restauré ça. Ésaïe 9,5, je vais le répéter, en effet, un enfant nous est donné, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. La souveraineté, tout pouvoir, c'est à lui, ça a été donné à lui. On l'appellera merveilleux conseiller. Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Encore une fois, il est prince de la paix. Il a autorité sur la paix. C'est lui qui la donne. C'est Jésus qui tient la paix. Vous savez quoi ? Jésus tient la paix du monde dans sa main. La paix du monde, Jésus la tient dans sa main. Dans notre pays, la paix, c'est Jésus qui la tient dans sa main. Dans notre ville, c'est Jésus qui tient la paix dans la main. Dans ta maison, c'est Jésus qui tient la paix dans ta maison. Et dans ta vie aussi, c'est aussi Jésus qui tient la paix dans ta vie. C'est lui qui tient. C'est la paix. C'est lui qui la détient. C'est lui qui la crée. Il suffit simplement d'aller le voir, de le rencontrer. Le psaume 32, verset 1 nous dit « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. » Qui est-ce qui n'est pas heureux que ses péchés sont pardonnés ? Attendez, j'ai peut-être pas bien parlé. Je ne parle pas en langue, je parle en français là. Qui est-ce qui n'est pas heureux ? Ah ben si, moi je dis, moi je répondrai. Je m'attends. Non, Michel, tu es en train de raconter des bobards là. Êtes-vous heureux ?
Oui.
Hein ? Êtes-vous heureux que Dieu vous a pardonné ? Ou alors simplement que c'est devenu une habitude ?
C'est une façon de tourner la phrase.
Du fond, ben, je ne suis pas bon en français, tu le sais bien. Hein, êtes-vous heureux ? Est-ce qu'on est heureux d'être pardonné ?
Oui.
Eh ben dis donc, eh ben Seigneur, tu dois être bien content d'entendre ça comme ça. Oui, arrachez-vous un petit peu. Jean 1 Jean chapitre 3 verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche. Eh, arrêtez de vous moquer, c'est pas bien. Car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Ok ? Ça, c'est l'objectif. Détruire l'œuvre du diable. Tout ce qu'il a fait, Jésus est venu pour tout démonter. Ce verset, il met en lumière une paix complète, une tranquillité parfaite et un vrai repos. C'est le pardon des péchés qui nous apporte la paix. Si on se sent pardonné, réellement pardonné, si on sait vraiment qu'on est pardonné, il y a une paix qui vient en nous, c'est obligé. Savoir que toutes les erreurs, toutes nos fautes, et Dieu sait qu'en tout cas pour ma part, il y en avait un paquet, de savoir que tout ça s'est pardonné à travers la croix. Ça, c'est bon. Ça m'apporte une sérénité, une certaine paix, cette paix que Jésus nous donne. On a une assurance, une espérance que Jésus a pris toute la condamnation. Il a tout pris sur ses épaules, par amour. Il nous a offert une nouvelle vie. La paix de Dieu est différente de celle des hommes et celle du monde, vous l'avez bien compris. Il s'agit de quelque chose de bien plus grand, de bien plus beau. C'est pas simplement « tu vas bien ?»« Ouais, ouais, je vais bien. » Non, non, c'est pas ça. Cette paix-là, c'est pas un armistice, c'est pas un beau sourire. Cette paix-là, c'est pas une drogue, ni un remède pour soulager les petits bobos de temps en temps, passagers. C'est l'effet d'une cause bien précise, une victoire remportée par Christ sur la croix. Est-ce que ça doit être... Jérémie 20, verset 1, qui dit, hein, quand je fais mention que je ne parlerai plus de lui, il y a comme un feu brûlant qui me dévore à l'intérieur. Est-ce que ce feu brûlant, il brûle encore? Ou c'est simplement comme la parole de Dieu, le lumignon? Comment il est ce feu? Est-ce que c'est une petite flamèche d'un briquet bic? Ou c'est vraiment une chaudière qui est à l'intérieur de toi? Jésus a triomphé. Il a combattu et il a battu le diable dans toutes ses œuvres. Le diable a été anéanti. Anéanti. OK? Et ça, il faut que vraiment, on a cette certitude. On a cette certitude. Colossiens 2, chapitre, au verset 13 et 15, nous dit « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de vos corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il l'a annulé en la clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Et il faut qu'on participe à ça, à cette œuvre, à cette paix qui est donnée en nous. Il faut qu'on puisse la donner à d'autres. Il faut qu'on puisse la transmettre à d'autres, cette paix. Car c'est notre héritage. Je vous rappelle que Jésus nous a dit « Je vous donne la paix. » Il nous l'a donnée. Simplement que pour qu'on se la mette dans la poche. C'est pas ça, on n'est pas appelé à ça. On n'est pas appelé à ça. Dieu nous a aussi donné le Saint-Esprit pour nous aider. Parce que c'est très bien qu'on est bien incapable de faire des choses merveilleuses pour lui. On est tellement... Bah voilà, on est comme ça. Hein ? On est mauvais. On n'est pas bon. Mais par Christ, on est bon. Et par le Saint-Esprit, on devient excellent. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme. C'est le Saint-Esprit qui enlève et qui gomme toutes nos imperfections. C'est le Saint-Esprit qui fait ces choses-là et qui nous aide à grandir. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à non seulement concrétiser cette possession de paix, mais aussi de savoir la donner à d'autres, de nous faire prospérer. Et c'est aussi cette paix qui va faire grandir l'Église. C'est cette paix qui fera grandir l'Église. Galates chapitre 5, verset 22 nous dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Ce n'est pas du discours Leroux que vous entendez là. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Simplement, il faut s'arrêter sur quelques versets, puis les lire et les étudier. Pas simplement lire pour lire. Ça, prendre le verset et dire « Waouh ! Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Ok, Michel, t'as quoi là-dedans ? Bon, on va passer au suivant. D'accord ? Est-ce que t'as tout ça, Michel ? Est-ce que t'as tout ça ? Non, Seigneur, j'ai pas. Alors, donne-moi de l'avoir. Je veux grandir, je veux apprendre à avoir ces choses-là. Je suis imparfait, Seigneur. Il y a plein de choses que je veux changer, j'y arrive pas. Donne-moi un coup de main. Mais simplement, il faut vouloir l'avoir. Et je pense pas que Jésus va me refuser de l'avoir si je lui demande avec un cœur sincère. Dans Actes, verset 9 à 31, il nous dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, dans la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. » On n'a pas la même église alors. Je ne sais pas, est-ce qu'on a la même église ? Acte 2, verset 46-47. Chaque jour, avec persévérance, ils se rencontraient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Je sais pas, vous avez entendu ? Ben, l'église, la ville d'Ena, elle est sauvée. Ben ouais, il n'y en a plus rien qui se rajoute. Toute la ville d'Ena, elle est sauvée. Là, voilà l'église d'Ena, la ville d'Ena, elle est là. Je me moque, hein. Et pourtant, la persécution, elle était là, hein, elle faisait rage. Hein. Faut pas me dire qu'ils étaient tranquilles, pépères. Hein. Ils étaient obligés de se cacher. Hein. Et pourtant, l'église était en paix. L'église était en paix. Elle prospérait. Et elle grandissait. Parce que la paix, elle était en eux. Ils l'avaient non seulement reçue, parce que Jésus leur avait donné, mais ils l'avaient conservée. Ils l'avaient conservée. Ce que Dieu nous donne, on doit se battre pour le garder. On doit se battre pour le garder. Parce que si vous ne vous battez pas pour le garder, croyez-moi qu'il y en a un qui va se faire un malin plaisir à venir vous le dérober. Et c'est la parole de Dieu qui en parle. C'est pas Michel Leroux, encore une fois. Il faut bien comprendre, il faut qu'on prenne bien conscience que la paix commence par soi-même, dans nos relations de tous les jours. Si j'ai un rapport dominant-dominé, il n'y aura pas de paix possible. Si je m'intéresse à toi que simplement par intérêt, il n'y aura pas de paix possible. C'est pas possible. Quand l'autre il devient une menace pour moi, vous croyez qu'elle va avoir la paix ? Tout est dans le regard de ce que je pose sur l'autre. Quand j'accuse l'autre de tous mes petits bobos journaliers, parce que si, parce que là, vous croyez qu'il va y avoir une paix ? La paix devient une réalité, vous savez quand ? C'est quand les écailles de nos yeux tombent et qu'on voit la réalité, la beauté qui est en face de nous à travers le monde, mais à travers un frère et une sœur, à travers un ministère ou autre chose, là, il y a la paix qui vient. Quand on connaît la paix, on cherche la communion. Faire la paix avec Dieu, c'est aussi communier avec lui. C'est de savoir regarder comment il est. D'être joyeux à travers un frère, d'être joyeux à travers une sœur, d'être joyeux à travers une action qui est faite. Vous savez, quand on dit que ta volonté soit faite, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on dit ça simplement parce que c'est une prière et puis qu'on a l'habitude de la faire ? Ou est-ce qu'on est prêt à accepter tout ? Que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies. Attention à ce qu'on dit, il y a des moments et à nos amens. Vous savez, l'Église primitive, comme on l'appelle, comme j'en ai parlé tout à l'heure dans les actes, ça me fait marrer quand je dis primitive. Parce qu'on a tellement à apprendre de cette Église primitive. On a tellement à regarder comment elle agissait sur cette paix, comment elle gardait cette paix, comment elle se multipliait, comment elle grandissait en nombre, mais en puissance aussi, en puissance. Et vous savez le quoi ? Mais c'est ça qui est incroyable, moi ça me tue. Ils avaient quoi ? Comment ?
Je dis, ben non,
ça te tue pas. Ouais, mais ça me met en rage, ça me met en rage. Parce que quand on voit tous les moyens que nous possédons aujourd'hui, on en est où à côté d'eux ? On est des guignols. On est des guignols. Sommes-nous devenus si feignants de ne pas nous apercevoir de ce qui se passe ? Est-ce qu'on est devenus aveugles ? Je sais pas, il y a quelque chose. Quand la paix de Dieu règne dans une vie, dans une église, elle ne peut que être édifiée. Elle ne peut que grandir. Parce que vous savez pourquoi ? Parce que quand il y a la paix, Dieu agit en profondeur. Dieu transforme en profondeur. Est-ce qu'on est toujours heureux de venir à l'église le matin, le dimanche matin ? Ou est-ce qu'on vient par habitude ? Je ne vous demande pas de me répondre. Mais posez-vous cette question. Vous savez, ce n'est pas mes grands discours ou vos grands discours qui vont changer quoi que ce soit. Ce n'est pas vos compétences, ni les miennes, ni nos connaissances Ce n'est pas ça qui va transformer. Ce qui fait que nous sommes des procurateurs de paix, des gens qui donnent la paix, des gens où ça émane de nous la paix, c'est comment on est avec les autres. Qui est-ce qui passe en premier ? Toi ou l'autre ? Qu'est-ce que tu cherches ? Comment on représente Jésus ? C'est ça qui fait la différence. Alors, je vous ai bien pris la tête, vous m'excuserez. Je vais vous donner deux versets, puis on va arrêter là. Hein ? Je vais vous lire Jérémie 29, 11. Et je veux vous encourager sur ça. Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet. Dessein de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Amen. Et encore un que j'aime beaucoup, et je sais qu'il va faire plaisir à Hugues. Philippiens 4, versets 6 à 9. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen.